Au quotidien, avec Clotilde Seille.
Nous voici déjà rendus à la dernière demi-heure de cette émission au quotidien. Une petite nouvelle qui vient de tomber. Apparemment, Alex Salmond, le premier ministre de l'Écosse, vient de démissionner. J'imagine qu'il en sera encore question dans les journaux lundi, mais j'en parlerai de toute façon certainement beaucoup moins qu'aujourd'hui. Alors, si vous voulez réentendre ce qui s'est écrit au sujet de l'Écosse dans les différents journaux du Québec, je vous invite à réentendre l'émission, soit en direct au moment des reprises à 18h30 et 23h, ou encore à peu près n'importe quand si vous allez sur notre site canalm.org, vous pouvez réentendre tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit dans les journaux du jour. Comme je le fais souvent le vendredi, je laisse une large place à José Blanchette, dont les chroniques sont toujours très, très touchantes. Celle-ci s'apprend, j'apprends à me tenir, j'apprends à me tenir debout et ma vette me soigne. Oui, oui, vous avez bien entendu. Elle écrit, José Blanchette, « Tant qu'à explorer l'approche multidisciplinaire en matière de cancer, j'ai ajouté une vétérinaire à mon équipe de thérapeutes et de médecins. Je suis une animale de compagnie attachante et j'aime me faire flatter dans le sens du poil avec de petits mots doux à l'oreille. De plus, les vétos ont appris à soigner des mammifères en observant les symptômes plutôt qu'en écoutant des mensonges pieux. Ma vette est atypique, même dans sa profession. Cette vette, chiro, craque des chiens et des chats, des lamas et des chèvres. Elle remet en place les morceaux du puzzle. Le seul inconvénient, c'est qu'elle ne conçoit pas la physiologie que sur le mode quadrupède. Avec elle, on n'y coupe pas. Il faut se mettre à quatre pattes. Ma vette en connaît un rayon sur le cancer. Son papa a rendu l'âme des suites du cancer du côlon la semaine dernière après plusieurs cycles de chimiothérapie et tout le protocole médical conventionnel. Lorsque j'ai abandonné la chimio préventive pour cause d'intoxication et de flirt mortifère, ma vette a décrété que j'étais un collé, comme la scie, si vous êtes de ma génération, poursuit José Blanchette. Cette race de chien présente parfois une mutation du gène MDR1 qui altère la barrière hémato-encéphalique et occasionne des effets secondaires sévères lors de la prise de certains médicaments, dont la chimio. Et oui, les chiens aussi reçoivent de la chimio et ont des oncologues. Le meilleur ami de l'homme n'est pas le chien, mais le cancer. Et le meilleur ami du chien aussi. Le fait d'aboyer semble être un atout pour prolonger mon espérance de vie, même si on me considère comme guérie. J'ai sous les yeux une étude qui date de 1979, constatant que les femmes atteintes d'un cancer du sein, métastatique, et affichant davantage d'hostilité envers leur médecin, ont plus de chances de guérir. En général, pour déclencher les hostilités, vous n'avez qu'à mentionner naturopathe, herboriste, holistique, homéopathe, acupuncteur ou psychosomatique, et si vous brandissez comme l'a fait un de mes amis atteint d'un cancer de la gorge, iridologie, la science de l'iris, et l'huile de chanvre, on vous traite avec le mépris. Aussi bien parler de mandala, médium et autres délires thérapeutiques dignes des charlatans qui abrutissent des esprits crédules et pétris d'angoisse. J'ai même rencontré, dit José Blanchette, un chirurgien dialogique, transgérationnel, rémunéré par la RAMQ, qui soigne ses patients par l'hypnothérapie. Ouap. Je rêve du jour où nos médecins conventionnels commandités par l'État seront entourés d'une véritable équipe multidisciplinaire, voire d'une laitière, et pourront unir leurs vues pour mieux nous soigner. Chaque cas, chaque corps est différent. Un chirurgien me mentionnait récemment que 95% de ses patients viennent le voir pour recevoir la béquille. Autrement dit, la plupart des patients sont à la fois passifs et peu enclins à modifier quoi que ce soit dans leur mode de vie ou leur façon d'apprivoiser la maladie. Ils veulent qu'on les soigne, basta. Le chirurgien Bernie Siegel a écrit dans son best-seller « L'amour, la médecine et les miracles » qu'il y a trois types de patients. De 15 à 20% qui désirent mourir, consciemment ou non, de 60 à 70% qui demeurent passifs, et de 15 à 20% qui sont exceptionnels et refusent de se poser en victime, prennent en main leur traitement et deviennent des spécialistes de leur propre cas. Ils se battent pour conserver leur libre arbitre et leur personnalité, quelle que soit l'évolution de la maladie. Les médecins doivent réaliser que les patients qu'ils trouvent difficiles ou peu coopératifs sont ceux qui s'en sortent généralement le mieux écrit Siegel dans son livre. Le patient exceptionnel suit son instinct de survie, bouffe à tous les râteliers, et si c'est la prière, la méditation ou la rigolothérapie, comme le célèbre journaliste Norman Cousins, qui le sauve, eh bien tant mieux pour lui. Placebo tant qu'on voudra. Les effets secondaires font peu de dommages et la posologie est simple. Chose certaine, conclut Blanchette, les médecins errent encore à tâtons au pays du cancer et il faut opposer l'obstination d'un Claude Robinson pour les ébranler dans leurs croyances. Ils en ont aussi. Et les amener à admettre que tout est possible, même si ce n'est pas encore breveté par une compagnie pharmaceutique. Apprendre à se tenir debout reste le défi d'une vie, même couchée. Parlons chien, tiens. Sermon sur la montagne dans le journal de Montréal. Gilles Proulx écrit, comme tous les ans d'ailleurs, « Les animaleries ne devraient plus vendre de chiens ni de chats sur le territoire de la ville, sauf s'ils proviennent d'un refuge. » Et ça, c'est ce que répondait Denis Coderre à la SPCA l'an dernier pendant la campagne électorale. « C'est le temps de passer de la parole aux actes, monsieur le maire, » lui dit Gilles Proulx. Cher lecteur, je vous convie à la marche des quatre pattes à laquelle je participerai avec mon Golden Romeo le dimanche 21 septembre prochain. Rendez-vous à 10h à la Maison Smith, sur le Mont-Royal. Chaque année, je sors mes bottines de marche et mon chéquier pour cet événement de soutien à la SPCA et à l'organisme Les Rescapés de Gerdy. La marche va durer jusqu'à 14h et aura lieu même en cas de pluie. Pourquoi il faut marcher? Parce que le Québec est hélas 12e sur 13 parmi les provinces ou territoires canadiens les plus laxistes au sujet des droits des animaux, selon le Animal Legal Defense Fund. Est-ce que nous allons voir Denis Coderre à la marche des quatre pattes? À la SPCA, l'an dernier, notre maire disait ceci au sujet des animaux abandonnés. « Nous avons malheureusement un taux d'abandon très élevé. Les Montréalais les gardent en moyenne 19 mois, alors que l'espérance de vie d'un chat ou d'un chien dépasse les 10 ans pour 50% d'entre eux. Ça n'a pas de bon sens. Eh bien, monsieur le maire, si vous avez une annonce à nous faire, venez donc nous la lire dimanche sur le Mont-Royal, lui écrit Gilles Proulx. Ce sera pour vous l'occasion de nous faire un petit sermon sur la montagne. » J'ai une photo assez hallucinante sous les yeux. J'ai trouvé ça dans le journal de Montréal. Il s'agit de la photographie d'un squelette parfaitement bien conservé. En fait, de deux squelettes. Et ils ont ceci de particulier, plusieurs choses. D'abord, ils se tiennent la main dans la main. C'est un homme et une femme, donc ils sont morts la main dans la main. Et ce sont des archéologues qui ont découvert dans une chapelle médiévale les squelettes de ce couple, probablement des pèlerins enterrés côte à côte et main dans la main depuis plus de 700 ans. Les dépouilles de l'homme et de la femme ont été découvertes lors de fouilles menées à la chapelle de Saint-Morel, un lieu de pèlerinage au XIVe siècle situé près du village d'Alaton dans le comté de Leicestershire, voilà, en Grande-Bretagne. C'est ça, c'est en plein à côté de la sauce dont tu viens de dire le nom et que j'ai jamais su. C'est pour en l'été, j'en mets jamais dans mes recettes de cuisine. Denis Graton, ce matin, dans Le Droit, un papier sur quoi déjà? Oh, ben écoutez, je vais vous le lire comme ça, vous allez voir tout de suite de quoi ça parle. Il nous dit, oh, les pharmacies ont bien changé au fil des années. Quand j'étais enfant, c'est avec la pharmacie Paris que mon père faisait affaire. Elle était située à deux pas de chez nous, sur le chemin de Montréal, à Vanier. Je revois encore le pharmacien Paris compter ses pilules derrière un comptoir et l'unique caissière qui trouvait le temps long. Je la comprenais, c'était si ennuyant comme endroit. Je détestais suivre mon père à la pharmacie. Je l'accompagnais toujours quand il faisait les courses, j'adorais ça. Mais un arrêt à la pharmacie était pour moi d'un ennui mortel. L'endroit était sombre, vide de clients, gris, parce qu'à l'époque, la pharmacie ne vendait presque uniquement que des médicaments et d'autres produits liés à la santé. Donc, on ne traînait pas là. On était bien loin des gens coutus, des Shoppers Drug Mart et des pharmacies de ce monde où vous pouvez pratiquement compléter vos achats de Noël en une seule visite. La pharmacie Paris a fermé boutique il y a des lunes. Aujourd'hui, c'est un Jean Coutu qui trône sur ce tronçon du chemin de Montréal, de l'autre côté de la rue. Et comme dans toutes les pharmacies Jean Coutu, on y trouve une variété de produits et même un ami. L'endroit bourdonne de clients. Et ce qui me surprend, chaque fois que j'y rentre, dit Denis Graton, c'est la présence en permanence d'un agent de sécurité. On est rendu là. Les vols seraient si nombreux dans ce coin de la ville que la présence de ces agents de sécurité est devenue indispensable. Triste réalité. À deux pas de cette pharmacie se trouve une succursale de la LCBO, mais contrairement aux Jean Coutu, l'endroit ne semble pas avoir d'agents de sécurité en permanence. Ils sont là dans les fêtes et parfois durant les longs week-ends, quand l'achalandage augmente, mais le reste du temps, non. Et pourtant, au cours des dernières semaines, j'ai été témoin de deux vols dans cette succursale. Et dans les deux cas, le voleur a procédé de la même façon. Le gars entre, il se dirige d'un pas décidé vers la vodka ou le gin, ce qui lui tente ce jour-là. Il prend une bouteille sur la tablette, la glisse dans une poche à l'intérieur de son manteau et quitte aussitôt, aussi rapidement qu'il est entré. Il en jasait, Denis Graton, récemment, avec un ami qui a déjà travaillé dans une succursale de la LCBO. Il lui a demandé si les employés recevaient une certaine formation pour jouer la police, compte tenu qu'on retrouve rarement des agents de sécurité dans ces endroits. « Non, ils ne reçoivent aucune formation », m'a-t-il répondu, « et ils ne jouent pas la police. » Mais que font-ils quand ils voient un client sortir et s'enfuir sans payer ? Rien. Ils ont l'ordre de ne rien faire. Ils pourraient mettre leur vie en danger. « Mettrais-tu ta vie en danger, toi, pour récupérer une bouteille de vodka ?»« Non. » Alors c'est ce qu'ils font. Bien sûr, s'ils aperçoivent quelqu'un voler, ils vont lui dire de remettre le produit sur la tablette et de quitter. Mais si l'individu prend la fuite, ils ne courront pas après lui. « La belle affaire, » dit Denis Graton. « C'est un buffet, quoi. Entrez et servez-vous à volonté. Et moi qui dis toujours que l'Ontario devrait permettre la vente de bière dans les dépanneurs, je commence à remettre en question ma position sur ce sujet, parce que je peux juste imaginer le Far West. » Et enfin, mes amis, célébrons un anniversaire aujourd'hui. Ce sont les 80 balais du Bloody Mary, nous dit Jean Aubry dans Le Devoir. La petite histoire nous apprend qu'alors que la prohibition bat son plein de ce côté-ci de l'Atlantique, chez nos voisins du Sud, les Russes, eux, descendent à Paris avec caviar et vodka dans leurs valises, histoire de se joindre aux noceurs qui, à cette époque, sont légion dans la ville de Joséphine Baker, mais aussi de Maurice Chevalier et d'Ernest Hemingway. Ce dernier, d'ailleurs, pour qui lever le coude relevait déjà avant l'heure de l'haltérophilie éthylique, introduira le cocktail à Hong Kong en 1941. Il poursuivra l'exercice au King Cole Bar de l'hôtel Saint-Régis à New York, où encore aujourd'hui, la Marie Sanglante se consomme par paquebots entiers tant elle est populaire. Il n'y a pas que les Russes qui s'approprient alors la ville lumière. Les États-Unis argentés aussi. C'est au Harry's Bar, dans le 2e arrondissement, vers 1932, que le mixologue avant l'heure Fernand Petiot leur concocte le Bloody Mary tel que nous le connaissons aujourd'hui. Depuis, le cocktail de M. Petiot se décline en de nombreuses variantes. Si le jus de tomate tisse encore et toujours l'ADN du Bloody Mary, la vodka, elle, peut être troquée pour du gin. Ça s'appelle un Rudy Mary, du sherry, ça s'appelle un Bloody Bishop, du saké, ça s'appelle un Bloody Geisha, du whisky, ça s'appelle un Brown Mary, de l'absinthe, un Red Fairy, de la Guinness, Bloody Marine et de la tequila, Bloody Matador, ou encore, et j'en passe, et des meilleurs, du scotch, Bloody Scotsman. Décidément, je suis gâté avec l'anglais, moi, ce matin. Bonjour le British. Alors, il faudra attendre, nous dit M. Jean Aubry, 37 ans et parcourir à l'ouest une distance de 7 377,23 km pour assister à une variation majeure du fameux Bloody Mary. Elle voit en effet le jour au Calgary Inn, sous la houlette du Canadien Walter Schell, à qui la maison demande un nouveau cocktail pour célébrer l'ouverture du restaurant italien local où le spaghetti alle vongole est au menu. Ajouter du jus de palourde au jus de tomate s'avérait aussi logique pour le barman que le mariage semblait cohérent avec le plat en question. Le Bloody Caesar voyait ainsi le jour en l'honneur du mythique général romain qui allait dorénavant substituer à la couleur du sang versé par sa garde prétorienne une touche santé que n'aurait pas renié le bon docteur Béliveau.
S'il me reste
Ah, Catherine Durand qui chantait. Elle disait, je reconnais cette voix-là, mais j'avais du mal à mettre un nom dessus. Bon, nous voici maintenant dans le monde culturel. Trop tôt pour parler de fermeture des conservatoires, dit la ministre. On se doutait bien qu'elle allait répondre quelque chose. La ministre de la Culture, Hélène David, s'est mise à la tâche jeudi de minimiser la proposition de fermer les 5 conservatoires de musique en région, pourtant inscrite noir sur blanc au plan de retour à l'équilibre budgétaire du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Il y a vraiment quelque chose que je ne saisis pas. On parle de fermeture, il n'y a absolument rien eu de fermé, absolument rien. Pourquoi semer une peur, une crainte, alors que le rapport n'est même pas sur mon bureau, a-t-elle lancé lors de la période de questions jeudi avant midi. Madame David a reproché au Parti québécois de provoquer la panique dans les régions en donnant de l'oxygène à la rumeur. Elle s'est toutefois refusée à tuer dans l'œuf cette rumeur, en écartant une fois pour toutes l'idée de fermer les portes des pôles régionaux du Conservatoire de musique. Le piège de l'obscurantisme, écrit à ce sujet Christophe Huss dans Le Devoir. Ainsi donc, le fait de dynamiter le conservatoire de Saguenay ou de Rimouski serait le remède miracle pour nous guérir de nos angoisses budgétaires. Et un coquin avec ça ? On aimerait en rire, mais il s'agit d'en pleurer. Le chef d'orchestre Yannick Nézet-Séguin a immédiatement et courageusement réagi par une lettre ouverte en son nom et celui des musiciens de l'orchestre métropolitain, missive destinée à la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, et publiée dans Le Devoir jeudi. Ce texte loue la qualité de la formation reçue dans les conservatoires du Québec et met en avant quelques musiciens de renom qui en sont issus. Mais Yannick Nézet-Séguin reste pudiquement en retrait sur une dimension capitale qui devrait prémunir nos édiles de toute décapitation inconsidérée, le rôle d'ambassadeur à l'étranger des meilleurs diplômés de nos conservatoires et la visibilité qu'ils donnent au Québec. Quelle capitale de sympathie pour le Québec! Combien de retombées positives en termes de notoriété pour la province découlent de leur rayonnement, fruit de l'enseignement qu'ils ont reçu! Et puisque les chiffres font la loi, quel budget publicité et promotion faudrait-il voter à terme pour contrebalancer cette perte-là? Avant d'additionner des chiffres et de soustraire des conservatoires pour se plier dans l'obscurantisme, il conviendrait, conclut Christophe Huss, de penser à tous les tenants et aboutissants. Loin de nous l'idée d'avancer qu'il n'y a aucune marge pour rationaliser les dépenses ou les soutiens, mais à tout le moins cela prendrait une vraie stratégie avant de passer à l'action. Cette stratégie culturelle fait cruellement défaut au Québec. Il est temps de l'échafauder. Eh bien voilà, c'est conclu. Albertine fera le tour de la France, nous dit-on dans la presse. Sous la plume de Luc Boulanger, la directrice du Théâtre du Nouveau Monde, Lorraine Pintal, a annoncé en primeur à la presse que la pièce Albertine en cinq temps, le chef-d'œuvre de Michel Tremblay, sera présentée en France en octobre 2015 avec la même distribution de six actrices québécoises qu'on a pu voir sur la scène du TNM l'hiver dernier. La production du TNM et du Trident à Québec s'arrêtera dans une dizaine de villes à travers la France, dont Avignon, Marseille, Compiègne et Bordeaux, toutes des scènes nationales. Créée au Trident et au TNM l'hiver dernier, la pièce met en vedette Monique Miller, Marie Tifot, Émilie Bibeau, Eva Daigle et Lise Castonguet dans les rôles d'Albertine de 30 à 70 ans. Lorraine Côté complète la distribution en défendant sa sœur, Madeleine. On va rester au théâtre, tiens, puisque le TNM remet ses prix. L'équipe du Théâtre du Nouveau Monde a procédé jeudi soir à sa remise de prix annuelle. Les prix Gascon-Roux ont entre autres sacré Marie-Thérèse Fortin pour Le Balcon et Patrice Robitaille dans Cyrano de Bergerac. C'est d'ailleurs lui qu'on voit en photo. Tout sourire, ils ont reçu ces prix en tant que meilleurs interprètes. Robert Lepage et Carl Fillion ont quant à eux été récompensés pour la mise en scène et les décors respectivement de la pièce Les aiguilles et l'opium. En résidence d'écriture au TNM pour l'année 2014-2015, Christian Bégin a pour sa part reçu la bourse à la création Jean-Louis Roux. On va rester en théâtre. Je vais vous lire la critique sortie dans la presse de la pièce « Le prince des jouisseurs ». La comédie, c'est un désespoir qui n'a pas les moyens. Et Georges Feydeau, célèbre auteur de vaudeville et épicurien devant l'éternel, en est l'illustration. Ce prince des boulevards a fait rire son époque et sa société, la bourgeoise parisienne, avec des comédies à succès. Certaines tenaient l'affiche pour plus de 1000 représentations. Mais il est mort de la syphilis à 58 ans, délirant, dans une maison de fous. Le prince des jouisseurs de Gabriel Sabourin raconte un épisode des dernières années de Feydeau, juste avant son internement à Rueil. Non, c'est Rueil-Malmaison. Comment on dit Rueil ? Non, Rueil-Malmaison. Créé mercredi dernier au Rideau Vert, dans une mise en scène un peu paresseuse de Normand Chouinard qui abuse des noirs et brise le rythme, la pièce utilise les mécaniques du vaudeville pour mieux exposer un Feydeau tragico-comique, un personnage drôle, excessif, lubrique et frivole, mais aussi malade, vulnérable, dupe et profondément seul. Zouvi s'affiche sans gêne dans des tenues légères qui ne l'avantagent pas, mais dans la peau de Feydeau, il livre l'une des meilleures performances de sa carrière. L'acteur puise à la fois dans le drame et le vaudeville pour créer un parfait Feydeau. Il défie la loi de la gravité et monte sur les meubles, puis saute dans le lit comme un enfant qui joue dans son parc. Malgré l'alcool et les nuits folles, Feydeau persistait à croire que la jeunesse et l'art gagnent toujours. Il frappera bien sûr un mur. Plus la représentation avance, plus on sent Zouvi soulever son masque comique pour nous montrer la vulnérabilité, la faille de Feydeau. C'est à voir. Ah oui, on nous dit ici qu'Alain Zouvi joue son dernier rôle au théâtre parce que l'acteur veut se concentrer sur le doublage et la mise en scène. C'est dommage, dit Luc Boulanger. Si tel est le cas, le comédien peut se dire que quelque part au paradis, ses parents, Jacques Zouvi et Amulette Garneau, qui ont aussi fait ce métier, regardent leur fils se démener avec génie sur la scène du Rideau Vert, et c'est jusqu'au 11 octobre.
Il y en a d'autres aussi qui se démènent. Ce sont les joueurs du Canadien, puisque le camp d'entraînement a commencé. Et avant de sauter sur la glace, oh là là, point de suspension, parce qu'il y en a des tests et des examens et des séances de photos. Bref, une première journée interminable pour la plupart des joueurs. Si vous posez la question à tous les joueurs, la plupart d'entre eux vont vous répondre que c'est la journée qu'ils préfèrent le moins, a mentionné l'attaquant Lars Eller jeudi à l'occasion de la rentrée des vétérans de l'équipe à Brossard. C'est une journée que nous n'apprécions pas particulièrement parce qu'on ne va pas sur la glace. Nous avons tous très hâte de sauter sur la glace pour de bon. La trentaine de vétérans de l'organisation se sont soumis à la même batterie d'examens médicaux et de tests physiques que la quarantaine de participants au camp des recrues ont subi la semaine dernière. C'est une interminable journée pour les joueurs parce qu'ils doivent chausser les patins et revêtir l'uniforme afin... Parce qu'ils doivent chausser les patins. Pourquoi ils doivent chausser les patins? Ils ne sont pas sur la glace. Enfin bref. Ce n'est pas une journée plaisante. Je ne suis pas fâché qu'elle soit terminée, a affirmé Alex Galchenyuk, un autre jeune attaquant. Le fameux test de la navette ou le BIP test s'est avéré un véritable supplice pour plusieurs joueurs jeudi. L'exercice cardiovasculaire consiste à rallier au pas de course deux points séparés d'une distance de 20 mètres en augmentant le rythme jusqu'à épuisement. J'entends encore le stupide son bip dans ma tête, a lancé le jeune défenseur Nathan Beaulieu. Ce n'est vraiment pas le fun, il n'y a rien de facile là-dedans. Le joueur de centre, Lars Eller, a été le meilleur jeudi en se rendant jusqu'au plateau 14, un de mieux que Gallagher et Michael Bournival. Aucun joueur n'a surpassé le total de 14 plateaux et demi que l'attaquant recrue, Jiří Sekák, a atteint à l'ouverture du camp des recrues vendredi dernier. Le défenseur Piqué Souban n'a pas impressionné le directeur général Marc Bergevin, qui a suivi le déroulement de l'exercice en compagnie de l'entraîneur Michel Therrien en stoppant sa course à 11 plateaux et demi. Piqué préfère les tests qui mesurent la puissance, a souligné Gallagher. Le camp d'entraînement se transporte sur la glace ce vendredi matin pour les 64 joueurs. Et là, il y a une photo de dos de M. Piqué Souban qui s'est prêté au jeu des différents exercices et on le voit porter quelques poids. C'est épouvantable. Je ne sais pas combien il y en a de poids là, de chaque côté, mais je pense que c'est plus lourd que moi de chaque bord. Et comme vous ne savez pas combien je pèse et que vous ne le saurez pas, eh bien vous savez, eh bien voilà. Personne ne saura combien il est capable de porter, M. Piqué Souban, mais il est impressionnant quand même, hein, le bonhomme. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vais vous souhaiter une très belle fin de semaine. Je vais vous donner rendez-vous lundi matin à 10h. Merci, Martin Dupuis. Eh bien voilà. Un rendez-vous lundi, donc, à 10h. Bonne journée à vous tous et bonne fin de semaine.